Merci de votre présentation. Avant de commencer, je veux m'excuser auprès de ceux qui, il doit bien y avoir quelques-uns qui ont essayé de venir ici l'an dernier lorsque je devais donner une conférence au mois d'octobre. Bon, peut-être qu'il n'y a personne parmi vous, tant mieux. Oui, hein, bon. Mais vous savez, ce n'était pas ma faute. C'est Via Rail qui était responsable. Un formidable pays qui a été construit autour du chemin de fer. C'est pas faire fonctionner un chemin de fer. Donc, j'étais resté collé à la gare de Via Rail à Montréal, le train n'étant jamais parti. Et quand on m'a avoué que le train ne partirait pas, il était trop tard pour que je vienne vous rejoindre. Alors, je m'en excuse. Et j'arrive donc avec une année de retard. Je vais essayer de me faire pardonner. Bon, alors, la façon dont je procède en général, quand j'ai l'audace de me présenter en public, c'est de faire un raisonnement. Je vais faire un long, long raisonnement devant vous. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de documenter à ce point ce que je vais affirmer, parce que si je devais documenter tout ce que je vais vous dire, on en aurait jusqu'au réveillon. Je vais surtout évoquer des processus historiques pour en arriver au résultat actuel concernant l'état de l'agriculture mondiale, la critique qu'on peut en faire et des remarques sur ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Bon, alors, premier point, l'agriculture mondialisée, est-ce qu'on peut passer à la prochaine? Je m'excuse, ce n'est pas moi qui contrôle ça. Bon, je ne mets pas la liste des processus, je vais vous les résumer très rapidement, puis ensuite je vais les prendre un après l'autre. Bon, premièrement, une des caractéristiques fondamentales de l'agriculture mondiale, contrairement à tous les discours, c'est qu'on surproduit. On produit actuellement de quoi nourrir 10 milliards d'habitants. Je vous rappelle qu'on est 7,3 milliards et que le chiffre de 10 milliards, si jamais il est atteint, ce qui à mon avis est impossible, ça va être en 2060. À partir de 2050, la population mondiale devrait régresser. Et si jamais Trump a ce qu'il veut, ça va se régresser beaucoup plus vite que ça. On n'atteindra jamais le 9 milliards qui est prédit comme le véritable pic, là, le sommet, le pic, ça va être en 2050. Bref, le problème de l'agriculture mondiale, ce n'est pas de produire plus. Rappelez-vous de ça, je vais y revenir souvent. Deuxièmement, on caractérise beaucoup l'agriculture de nos jours par le fait qu'on n'utilise pas les bonnes terres. Les meilleures terres, en général, sont de plus en plus utilisées pour l'étalement urbain, y compris ici, dans votre belle ville d'Aylmer, y compris bien sûr à Montréal, y compris bien sûr à Paris, à Londres. Les meilleures terres du monde sont généralement celles sur lesquelles se sont établies les métropoles, Shanghai, par exemple, entre autres, etc. Calcutta, je crois que vous en avez 35, là. Ce sont toutes des villes qui se sont établies dans des bassins agricoles de première qualité et qui s'étalent au départ de plus en plus de ces bassins-là. On surutilise l'énergie, l'agriculture de plus en plus énergivore. C'est la principale source de dépenses d'énergie. Et d'eau, 70 % de l'eau dans le monde est utilisée pour l'agriculture. L'agriculture se répand, on continue à étendre le domaine agricole planétaire, essentiellement aux dépens donc des banlieues urbaines, mais encore plus aux dépens des forêts. Bon, ce qui est un sacré problème, parce qu'il s'ensuit une perte de biodiversité et bien sûr de fertilité. Les forêts sont des bassins de fertilité, hein, des réservoirs de fertilité, et bien sûr jouent un rôle considérable dans le climat. Cette expansion va même se faire de plus en plus, ou se fait de plus en plus depuis une trentaine d'années, au dépens des mangroves. Vous savez ce que c'est que les mangroves? Ce sont ces forêts littorales du monde tropical qui sont les principaux viviers de la planète pour tout ce qui touche à la faune aquatique. Hein, l'essentiel des crustacés du monde se reproduisent dans les mangroves. Or, les mangroves, on les colonise pour les transformer en étang de pisciculture et surtout de crevetticulture, avec des conséquences désastreuses sur l'environnement. Je ne m'étendrai pas, là, si on a l'occasion, je vous dirai un peu ce que ça donne. Disons que le coût d'une crevette vendue dans nos supermarchés devrait être de l'ordre de 10 $ la crevette. Parce que ce que je sache, ce n'est pas ça le prix, hein, c'est un peu moins que ça. Les crevettes, ça devrait être consommé par les plutocrates comme le caviar. C'est tout. On ne peut pas produire ce qu'on produit comme crevettes sans détruire les réserves planétaires des mangroves. Ça entraîne la pollution de l'air, la pollution de l'eau, des sols et surtout des mers. Parce que toute cette aquaculture qui est devenue une forme de déversement de l'agriculture, par exemple, vous savez que le saumon, il est essentiellement élevé, le saumon. Il est élevé dans des étangs, très souvent des étangs qui sont riverains, qui sont sur les littoraux. Et bien sûr, la crevetticulture industrielle, elle est pratiquée dans des étangs littoraux. Et comme on la pratique de façon très intensive, on utilise littéralement des tonnes d'antibiotiques par étang pour produire 10 fois plus de crevettes que dans la mangrove naturelle. Et ces antibiotiques-là, à chaque saison de récolte, on les déverse dans la mer avec toute la merde que les crevettes, qui sont, vous savez, des tubes digestifs en quelque sorte, produisent pendant la période de formation. Alors, on déverse littéralement des millions de tonnes d'antibiotiques et de merdeaux de crevettes dans les mers démersales, c'est-à-dire les mers côtières, et on tue toutes les pêcheries dans les pays. Bon, je n'entre pas dans les détails, c'est par milliards de dollars qu'on fait perdre du potentiel de production naturelle pour produire de la crevette. C'est un des non-sens de l'agriculture ou de l'aquaculture, les deux marchant ensemble. Bien sûr, tout cela contribue aux émissions de gaz à effet de serre et indirectement au dérèglement et au changement climatique. Fondamentalement, l'agriculture actuelle produit, donc, je vous l'ai dit, pour plus de 10 milliards d'habitants. On gaspille à peu près 35 % de la production agricole mondiale. Hein? 35 % des aliments qui sont produits par l'agriculture mondiale et les pêcheries mondiales sont gaspillés, ne sont pas consommés par les humains. Il y a plusieurs formes de gaspillage. Il y a des gaspillages dans la production, il y a des gaspillages dans le stockage. Un pays comme l'Inde perd à peu près 5 à 6 % de sa récolte de céréales, essentiellement de blé, à cause des mauvaises conditions de stockage. Ce sont les rats qui mangent à peu près 5 % de la récolte indienne. Mais beaucoup plus important, il y a les techniques de production, le fait que dans nos agricultures, dès qu'une tomate n'a pas la bonne couleur, la bonne forme, on la laisse dans le champ. Et surtout, on se sert beaucoup trop, on jette. Les Américains jettent à peu près 30 % de ce qu'ils mettent dans leur assiette. Les Anglais, 35 % On comprend un peu pourquoi, là, quand on sait la façon dont ils font la cuisine, mais enfin, ce n'est pas une raison. C'est pas une bonne raison. Bon, plus sérieusement, vous savez bien, ça a des conséquences, cela. Non seulement on gaspille, mais on mange trop, d'une façon générale, dans nos pays. Excusez-moi, oui, c'est ça. Bon, juste très rapidement, il y a à peu près 800 à 900 millions de personnes dans le monde qui souffrent de malnutrition. Là, on parle vraiment de sous-alimentation, essentiellement concentrée en Afrique et en Inde. Bon. Vous voyez, tout le monde occidental, tout le monde, les pays du Nord, toute l'Europe, la Russie, etc., et l'Amérique du Nord n'est pas concernée. Mais il y a 39 % de la population adulte mondiale qui est en surpoids et 14 % qui est en état d'obésité. Et si vous savez très bien que ce n'est pas les Indiens, ce ne sont pas les Africains, c'est 30, 40 % dans certains pays. C'est le cas aux États-Unis, c'est 34 % c'est 35 % au Mexique. Et il y a pire que ça, mais pas à la même échelle, le Qatar, l'Arabie Saoudite, c'est 50 % Bon, je ne ferai pas de commentaires là, sur la façon dont ces pays-là fonctionnent. Ces pays hyper démocratiques, en particulier l'Arabie et le Qatar, justement. Bref, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment peut-on en être arrivé là? Surtout, ce qui est peut-être le plus grave de tout, à l'heure où on se parle, hein, peut-être qu'un des problèmes essentiels du monde, c'est l'emploi, le sous-emploi ou l'absence d'emploi. Les agricultures qui se développent sont des agricultures qui détruisent l'emploi. Plus les agricultures se répandent, plus l'emploi est détruit. Je vous donnerai des exemples. Je vous en donne tout de suite au cas où j'oublie de le faire. L'agriculture de plantation de palmiers à huile, ça vous dit quelque chose? Le palmier à huile, c'est la culture qui se répand le plus rapidement sur la planète à l'heure actuelle avec le soja. Hein? Le soja, c'est essentiellement pour l'alimentation animale, comme vous le savez. On y arrivera. Et le palmier à huile, c'est pour produire donc de l'huile de palme, qui sert essentiellement dans à peu près une trentaine d'aliments, essentiellement des aliments étouffes chrétiens, c'est-à-dire des biscuits, des saloperies, quoi, du Nutella, des machins comme ça. Là. Ça sert aussi à la cuisine, mais ça sert surtout à de la malbouffe, hein, l'huile de palme. Mais ça sert aussi comme cosmétique, ça sert l'huile palm oil, palm olive, le savon palm olive, ça vient l'huile de palme. C'est ce que je répare le plus rapidement, et essentiellement au détriment des forêts tropicales. Les sols sur lesquels on cultive le palmier à huile, d'abord et avant tout en Malaisie et en Indonésie, et de plus en plus au Nigeria, avec des rendements fabuleux, se font sur de plus en plus de grandes surfaces, Et si, par exemple, une plantation s'installe sur 1 millier d'hectares, qui sont déjà cultivés par, mettons, 100 familles qui ont chacune 10 hectares, et ces terres-là sont accaparées par une grande entreprise, ce millier d'hectares-là, qui employait, disons, 2 personnes par famille, puis il y avait, je vous ai dit, 100 familles, ça fait 200 travailleurs, elle va en employer 50 pour faire tourner sa plantation. Alors, quand on vous dit qu'on répare l'agriculture, que les grandes sociétés investissent dans le développement de l'agriculture, c'est dans une forme de développement qui casse l'emploi, qui réduit le nombre d'emplois. Bon, je vais revenir souvent à ça parce que c'est ce qui caractérise l'ultralibéralisme de nos jours, c'est que malgré tous les discours, il est fondé sur la destruction de l'emploi. Il faut employer de moins en moins de monde pour qu'il y ait de plus en plus de profits qui soient réalisés en dehors du salaire, qu'on ait bien oublié de verser. Alors, s'il y a juste 10 personnes auxquelles il faut verser des salaires au lieu de 200, en général, on peut en mettre un peu plus de côté. Le « on » étant, bien sûr, les actionnaires. Puis au total, le résultat de ces problèmes, quand je dis qu'est-ce qui ne va pas avec l'agriculture mondiale, c'est que la sécurité et la souveraineté alimentaire est en régression dans un bon nombre de pays, en particulier en Afrique. Et dans certains cas, elle a carrément été érodée. Hein? Un pays comme Haïti était autosuffisant pour tout ce qui est aliments de base, les céréales, il y a encore 30 ans. Puis maintenant, Haïti importe tout son blé. Il ne produit plus de riz parce que son marché a été cassé par les exportations américaines de riz qui leur ont été imposés. Bon, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on en est là, au-delà de tous les discours? L'obésité, rapidement, là, vous voyez, ça résume, là, États-Unis 34, Mexique 33, en fait, c'est 35 cette année, le Mexique, mais enfin, bon, peu importe. Alors, vous donnez une idée, là, le Canada, on n'est pas trop mal, on a 19%. Et puis, bon, c'est ça, la planète 14%, c'est un peu les chiffres que j'ai cités rapidement, mais surtout, c'est que c'est un problème qui est dynamique, si je puis dire, et on s'attend à ce qu'il y ait 20% de la population des adultes mondiaux en 2025 qui soit obèse. Bon, on peut continuer? OK. Bon, ça, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est un gros programme, hein? Mais je vais aller un peu plus vite par-ci, par-là. Là. Je vais parler de ces 10 questions-là. Je me donne à peu près 3-4 minutes pour chaque. On peut la laisser là, cette diapo-là, vous allez voir où j'en suis. Si je me perds, ben vous me le direz. Les bonnes intentions. En gros, là, les étapes historiques, là, création de la FAO, etc. Bon, je ne remonterai pas à l'histoire de l'agriculture, qui est fabuleuse, mais simplement à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des problèmes dans le monde, y compris dans des pays qui étaient autrefois développés, prospères, en Europe. Il y a des rapports qui ont été faits, considérables. Il y a une étude qui s'appelle « Asian Drama » qui a été pondue par un économiste suédois, peu importe là, pour ceux qui connaissent, Myrdal. Grosse étude qui a mis 15 ans à circuler et qui a identifié les problèmes essentiels en disant qu'il faut mettre le paquet sur l'Inde, sur l'Afrique, sur l'Asie. Il faut vraiment accroître la production agricole dans ces pays-là. D'autant plus que l'Europe allait très mal, il fallait reconstruire l'Europe, d'où le plan Marshall, etc. La pauvreté était de plus en plus répandue, elle était déjà bien sûr présente, mais après la Deuxième Guerre, en Inde, en Indonésie, qui était considéré comme un des pays problèmes du monde, la pauvreté était très aiguë et surtout menaçait le péril communiste, avec ce qui venait se passer en Chine en 1949, ce qui se passait en Indochine, au Vietnam, etc. Et on a mis au point ce qu'on a appelé délibérément la révolution verte pour contrer la révolution rouge, c'est-à-dire essayer d'améliorer la condition des paysans dans les pays dits du tiers-monde. Le terme a été généralisé à cette époque-là. Bon, il fallait reconstruire, réduire la pauvreté, un gros programme. Un des outils qui a été, comment dirais-je, sinon imaginé, appliqué avec de plus en plus d'intensité, accroître le commerce mondial, notamment des aliments, et surtout les investissements. Et ça, c'est vraiment à ce moment-là que ce qui faisait déjà la puissance des États-Unis. Vous savez, les États-Unis sont de très loin la première puissance agricole mondiale. C'est le seul pays au monde qui a une sécurité alimentaire totale. Les États-Unis sont capables de se nourrir, ils sont capables d'acheter n'importe quoi. Ils ont une sécurité alimentaire de 99,8%, c'est-à-dire que si le reste de la planète arrêtait de cultiver quoi que ce soit, les Américains n'auraient pas de problème. Vous connaissez votre géographie des États-Unis, ils peuvent produire à peu près n'importe quoi. Peut-être pas de l'huile de palme, mais ce n'est pas indispensable. Hein? Et c'est aussi ce qui a assuré l'explosion de la puissance américaine à la fin du 19e siècle, c'est leur capacité à exporter des produits agricoles. Ça a été relancé, ça, après la Deuxième Guerre mondiale, entre autres parce qu'il y avait besoin d'aide en Europe, il y avait besoin d'investir dans le développement de l'agriculture, mais aussi en attendant que ça se redéveloppe, que ça redémarre, qu'on vende la production agricole. D'où la nécessité d'établir des institutions internationales qui allaient régir tout cela. Bon, là, je ne vous ferai pas l'histoire de la Banque mondiale, des Nations unies relancées, hein, de la Banque mondiale, de la FAO, des accords du GATT qui ont mené éventuellement à la formation de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et tout ça, c'est dans les années 40, 44, 45, 46, 47, etc. Bon, ces organisations-là se sont en quelque sorte de plus en plus concertées pour passer le flambeau aux investissements privés, fondamentalement aux multinationales, surtout américaines. Et dans cette affaire, l'aide alimentaire a joué un rôle crucial. L'aide alimentaire américaine, les Américains ont déversé du blé, ont déversé de la farine même, sur l'Europe, et bien sûr en Inde et tranquillement en Asie du Sud-Est. Tout en investissant dans l'innovation, notamment dans... Tout ça, ça s'étale sur un petit quart de siècle, disons, en gros, là, des années 50 aux années 80, plus ou moins selon les pays, se répare la révolution verte. Pas partout, mais beaucoup en Asie, au Mexique, bien sûr, à côté des États-Unis, toujours dans l'objectif officiel de rendre les pays plus autosuffisants, plus accroître leur souveraineté alimentaire, et aussi, bien sûr, contrer les dissensions dans les campagnes, l'émergence du communisme, quoi. Et dans certains cas, c'était concrètement un objectif évident, clair, je dirais presque louable. Il faut s'assurer que les paysans vivent correctement, sinon ils vont s'intéresser à ceux qui leur promettent des lendemains rouges, quoi. Bon, et c'est à ce moment-là que les multinationales, comme je viens de le dire, les multinationales de l'agriculture américaine ont commencé à élargir leur marché. Puis, soit dit en passant, c'est tellement vrai ce que je vous dis là que ça a commencé que ça continue. Il y a quelques jours, hein, deux des plus grandes multinationales, tout secteur confondu, Bayer, des empoisonneurs médicaux patentés, ont acheté Monsanto, la plus grande compagnie de vente de semences au monde pour transaction, je ne sais plus, vous savez, c'est des chiffres maintenant, 69 milliards ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un exemple de concentration dans l'agriculture. Puis vous savez que, par définition, toute forme de concentration amène ultimement une hausse des prix. Au moment où une concentration se réalise, elle va mener, par exemple, à des politiques d'abaissement des prix, sous prétexte qu'on va être plus efficace, on va faire d'intégration verticale et horizontale, l'intégration des marchés à plus grande échelle et tout le bazar. Puis tranquillement, ça casse toutes sortes d'autres entreprises qui peuvent compétitionner, puis tranquillement, on prend le marché, puis on hausse les prix. Bon. Ça a commencé à cette époque-là. Bon, les plus puissantes des entreprises multinationales ont donc pris le dessus, dès ces années-là, là, toute cette période-là, des quarts de siècle après la Deuxième Guerre mondiale. Et surtout, elles ont réussi à obtenir... Attendez, je pense que si on passe, on peut aller un peu... Ouais, c'est résumé ce que je veux dire là. Ça. Bon, ça, c'est ce que je viens de raconter. On peut pas... Ah oui, déréglementation. Ouais, c'est bien que ça apparaisse à l'écran, ça j'aurais dû le mentionner. 1998-2004. Bon, je saute un peu les étapes. Ça, c'est crucial. Vous savez, jusqu'à 1998, la majorité des produits agricoles de base n'étaient pas cotés à la bourse. On ne pouvait pas acheter des récoltes. Hein? Le café était coté à la bourse, d'où, comme vous le savez, on se rappelle quand même de 98 ou des années 70 et 80, la plupart d'entre nous ici, c'est mon cas en tout cas, le café, les prix du café fluctuaient de façon très brutale parce qu'on pouvait spéculer sur le café, comme sur le coton, mais sur le blé, sur le maïs, sur le riz, la banane, etc., ça ne pouvait pas être coté en bourse. En 98, sur le gouvernement de Clinton, et en 2004, sur le gouvernement de Bush, blanc bonnet, bonnet blanc, bleu, blanc, peu importe, même chose, démocrate, républicain, on a démoli ce qu'on appelle l'exception agricole et on a autorisé l'ouverture des marchés et donc la spéculation, l'achat des récoltes qui n'existent pas. Hein, parce que c'est ça, la spéculation, c'est qu'on achète des biens qui n'existent pas ou qui ne sont pas encore produits ou qui ne sont pas encore mis en marché. Avec les conséquences que vous savez, c'est que le prix des céréales, depuis lors, fluctue comme a fluctué autrefois le prix du café et compagnie. Et ça, c'est crucial, parce qu'à ce moment-là, c'est littéralement, excusez l'expression pas très académique, c'est au plus fort la poche. Celui qui peut décider, j'achète pour 1 milliard de dollars de récolte de maïs mexicain, m'en fous, je n'ai pas besoin de bouffer, je ne le vois pas, il n'existe pas ce maïs-là, mais quand le maïs va être sur le marché, c'est moi qui vais l'avoir, c'est moi qui vais le posséder. Puis si je décide que ça a créé une pénurie parce que j'ai stocké quelque chose qui n'existait pas, quand il va arriver sur le marché, bien, je vais le vendre 25 % plus cher, puis je vais faire 250 millions de profits. Puis voilà, puis on continue, on fait le reste. C'est très simplifié comme explication de spéculation, mais en gros, c'est ça. C'est spéculer sur quelque chose qui n'est pas encore offert sur le marché, et puis miser sur la possibilité qu'on va faire un profit, une passe, un bon québécois, sur cette spéculation. Alors, vous devinez, ça change toute la donne sur le marché agricole et ça rend possible la prise de contrôle par les intérêts puissants. Vous et moi, à moins que vous soyez milliardaires, on ne peut pas jouer ce jeu-là. Puis les agriculteurs ne peuvent pas non plus. Bon. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. C'est ça. Bon. Puis, les grandes multinationales ont pu fonctionner comment? Essentiellement, comme elles fonctionnent de plus en plus aujourd'hui, en achetant les États. Excusez d'employer des gros mots, mais enfin, acheter, c'est pas un gros mot. C'est-à-dire en faisant passer par les lobbies des déréglementations. Je dis bien des déréglementations. On a accéléré ce que Clinton et Bush, là je vous parle, on est rendu aujourd'hui, là, j'ai quand même résumé beaucoup. On a accéléré des déréglementations pour que il n'y ait plus de limites, on puisse envahir les marchés, qu'on puisse, par exemple, imposer par l'Organisation mondiale du commerce, impose l'ouverture des marchés. Alors, des pays comme Haïti, qui ne sont pas capables de rivaliser avec l'agriculture américaine, personne ne peut rivaliser avec l'agriculture américaine, ou avec l'agriculture française, ou la canadienne, ou autre, qui ne sont quand même pas n'importe quoi. Hein? On est quand même le 10e, je sais plus, 9e ou 10e agro-exportateur, après les États-Unis, la France, le Brésil, etc. Bon. Cette concentration-là s'est accélérée entre les mains des multinationales et entre les mains d'une poignée de pays. Bon. Ça comprend des pays comme même la Turquie, qui est un des gros agro-exportateurs. Et tout ça, dans les politiques de l'État, dans nos pays, vous savez sans doute qu'un pays comme l'Europe en général, le plus gros budget de l'Europe, ce n'est pas le budget militaire, ce n'est pas le budget de l'éducation, ce n'est pas le budget de la santé, c'est la PAC. Politique agricole commune. Les États financent les agricultures européennes. L'agriculture européenne, si elle n'était pas financée, c'est l'agriculture américaine, si elle n'était pas financée par l'État, c'est l'agriculture canadienne, si elle n'était pas financée par l'État, elle n'existerait pas. Hein? Ou bien, il faudrait qu'elle produise et qu'elle vende à 2 ou 3 fois les prix. Bon. Là, je fais une parenthèse sur cette question-là parce qu'elle est cruciale. Puis, vous allez penser que c'est compliqué, mais vous allez voir, je pense que ça ne l'est pas. Puis, ça vient d'un penseur dont les écrits sont très compliqués, et qui a fait beaucoup, dont l'œuvre a été très mal utilisée. Il y a des choses essentielles, c'est un volume 1 du Capital de Marx, c'est l'explication de la baisse tendancielle du taux de profit. Bon, c'est facile de faire ça en 3 minutes. Je fais un cours de 3 heures là-dessus. Alors c'est la baisse tendancielle du taux de profit, en gros, c'est ceci. Marx a démontré, puis ça s'applique à tout, à tous les secteurs économiques. Dans une entreprise, je vais prendre une manufacture de souliers, qui produit pour 1 000 $ Il faut, disons, qu'elle fasse des profits de 10 %. 10 %, ça veut dire qu'il ne faut pas que ses coûts soient supérieurs, disons, à 900 $ Mettons que sur ces 900, je simplifie, ces 900 $-là, c'est 300 $, c'est l'énergie, tout ce qui est nécessaire à faire tourner l'usine. Bon. Les transports, etc., l'énergie. 30 %, c'est la matière première, disons le cuir. J'ai parlé de fabrique de godasses, hein, je pense, manufacture de souliers. Bon. Puis l'autre 30 %, c'est les salaires. La baisse tendancielle, c'est que, par nécessité, on ne peut pas se contenter de vendre pour 1 000 $ mettons, j'ai oublié de dire, les 100 paires de godasses à 10 $ la paire. Parce que le prix du cuir va monter. Le prix de l'énergie, quelle que soit la source, va monter. On ne peut pas augmenter trop vite les prix des souliers, parce que le compétiteur, lui, va réussir à baisser à 1,90 $, puis vous baissez vous comprenez, hein? Qu'est-ce qui reste? 2 choses. Accroître la productivité du travail ou serrer la vis des travailleurs, les payer moins en accroissant la productivité ou en réduisant le nombre de travailleurs, s'assurer qu'ils produisent plus. OK? Bon. En gros, c'est ça l'histoire du capitalisme. Ça donne comme conséquence que pour baisser, rester compétitif, réussir à faire le 10 % ou le 15 % ou le 20 % ce que le capitalisme boursier, hein, qui s'est développé en gros au 20e siècle, puisse prospérer et donc verser du 10, du 15 et du 20 % et non plus le petit 10 % que les plutocrates du 18e siècle se tentaient d'engranger. Les propriétaires de magasins de souliers, c'était des gros capitalistes et tout. Bon, ils faisaient du 10 % ça suffit. Aujourd'hui, ce n'est pas un profit, ça. Trump, il ne fonctionne pas à 10 % il fonctionne à 500 % Je n'exagère pas, là. C'est un concret, là. Trump vend une entreprise, ce n'est pas pour faire du 10 % Ça s'applique à tout. La baisse tendancielle du taux de profit implique donc qu'il faut serrer la vis sur ce qu'on appelle en général le secteur du travail, en faisant travailler à mort ou en faisant produire à mort et surtout en réduisant le coût de la force de travail. Quelle est la meilleure façon de réduire le coût de la reproduction de la force de travail? En faisant baisser le coût de la nourriture. OK? La chose dont les prix ont le moins monté depuis deux siècles, c'est la bouffe. Le logement, l'énergie, tout ça, ça a monté beaucoup plus que le prix de la nourriture. Le bois, toutes les matières premières, leurs prix ont monté. Pourquoi? Ah, parce qu'on a serré la vis à l'agriculture. Puis la meilleure façon de serrer la vis à l'agriculture, c'est d'y réduire le coût du travail, réduire le nombre de travailleurs, concentrer les effectifs, concentrer la propriété de la terre et la mise en valeur de la terre en mécanisant à mort. Puis ça, je ne veux pas vous prédire l'apocalypse. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, mais imaginez un peu ce qui se passe. La robotisation générale de tout, pas juste de l'agriculture. Moi, je me contente de l'agriculture. Hein, je ne veux pas vous faire trop peur. Mais si vous pensez à d'autres secteurs, hein, on mécanise, on robotise, qu'est-ce que les gens vont faire? On peut travailler. Mais sauf que l'accumulation telle qu'elle est conçue de nos jours ne nécessite pas beaucoup de travail, ça nécessite de la concentration. Bon, c'est une parenthèse. Bon, direct d'inventation tous les azimuts et concentration, contrôle du discours public, y compris par le mensonge. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que quand, excusez-moi de prendre des exemples qui sont très, très lointains. Un certain premier ministre, par exemple, Couillard, il s'appelle, il me semble, dit « on va faire ceci, on va faire ça, ça va créer de l'emploi, on va construire une usine de ciment, ça va créer de l'emploi. » C'est faux, ça ne crée pas de l'emploi, ça tue les petites entreprises. Hein, quand on dit « on va concentrer, on va donner des terres à tel producteur en Afrique, en Éthiopie, le gouvernement éthiopien va dire « je vais donner 1000 hectares à une multinationale indienne », parce que les Indiens commencent à avoir de l'argent, parce qu'ils vont être plus efficaces. La première chose que l'entrepreneur indien fait, c'est qu'il met à pied tous les petits paysans, puis il dit, bon, le 1000 hectares sur lequel vous produisez 1000 tonnes de bananes, moi, je vais en produire 10 000 tonnes de bananes avec un dixième de travailleurs qui étaient employés sur ces terres-là. Alors, ces équipements-là se multiplient à l'échelle planétaire. On réduit, vous savez bien que l'emploi dans l'agriculture au Québec, c'est dérisoire. Il y a 33 000 entreprises agricoles, puis il n'y a pas 100 000 emplois, quoi. Bon, mais pour que ça marche, ça, il faut aussi réduire tous les coûts de la production. Ça veut dire, excusez-moi, de détruire la biodiversité. Là, c'est pas possible. Personne ne peut avoir envie de détruire la biodiversité. Ah, je regrette. Pour une multinationale, c'est compliqué d'avoir à cultiver 5 ou 6 sortes de blé, ou 5 ou 6 sortes de maïs, ou 5 ou 6 sortes de choses-là. On va limiter au maximum à un type de semence, parce que ça va pouvoir permettre de mettre au point un type d'engrais, toujours d'origine industrielle, toujours d'origine pétrolière. L'essentiel de l'engrais vient du pétrole et du gaz naturel. Ça va permettre de mettre au point un insecticide, un pesticide, etc., qui va gérer tout ce qui peut attaquer cette plante-là. Si on a plusieurs types de plantes, c'est compliqué, il faut avoir plusieurs types d'intrants, vous me comprenez? C'est important de comprendre ça, là. Donc, ce n'est pas pratique. Ce n'est pas pratique qu'il y ait 700-800 sortes de pommes. C'est ce qu'il y avait au 19e siècle dans le monde. 700-800 espèces de pommes. Bon, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on contrôle le marché quand les pommes peuvent pousser selon des temporalités différentes, être disponibles pour le marché au mois de mai, disponibles pour le marché au mois de novembre? Ça ne marche pas. Il faut s'arranger pour concentrer le marché, un type de pomme ou 3-4 types de pommes, pendant tel ou tel mois, puis là, on met le paquet. Et on s'accapare tous les intrants, la production des intrants. Donc, nécessité de réduire la biodiversité agricole. Je vais y revenir. Et puis, manipulation génétique avec la position des OGM. Moi, personnellement, les OGM, là, je vais peut-être vous choquer, ça ne me fait pas peur. Vous savez, un jour, on va découvrir que c'est une source de cancer, de ci, de ça. Pour le moment, il n'y a rien qui démontre que les produits agricoles tirés des OGM, surtout le maïs et le soja, qui sont les deux principaux cultures OGM. Il y a aussi le coton, les trois premières cultures qui ont utilisé les semences d'OGM. C'est pas ça qui m'inquiète, moi. Même si, bon, on me dit peut-être qu'un jour, on va découvrir que ça, tous les gens qui ont trop mangé de maïs ont marché de travers, mais pour le moment, ce n'est pas ce qui se passe. Et puis, de toute façon, les OGM, c'est une façon beaucoup plus sophistiquée de faire ce qui se fait depuis toujours dans l'agriculture, c'est-à-dire le bouturage. C'est-à-dire on prend une branche d'arbre, on la jette dans le sol. Les premières cultures dans les forêts tropicales d'Asie, c'est 6000 ans. C'était comme ça. Les gens se sont aperçus qu'à côté d'un arbre, il y avait un arbre qui poussait dans la vase, mais puis en fait, il n'y avait pas de semence, c'était un morceau une bouture naturelle qui était tombée, puis il s'est transformé en arbre. Bon. Vous avez sûrement déjà vu ça, vous avez déjà marché dans la forêt, la vraie forêt, là. Bon. Et puis, on va essayer, on va mettre deux branches, on finit par faire des hybrides, puis à faire... Pour moi, les OGM, ça me fait peur. Ce qui fait peur, c'est que ça permet de concentrer. Les OGM sont des choses qui permettent de concentrer la propriété et vous savez bien, les brevets sur les semences. Et tout le reste, tout ce qui vient, quand on contrôle une semence, on contrôle aussi tout ce qui est nécessaire à la fertilisation de cette semence, parce qu'à une éventuelle mise en marché. C'est dans ça que Monsanto est passé maître. Vous savez, il contrôle 90% du marché des semences dans le monde, ou un chiffre de cet ordre. Et puis, bien sûr, tout ça, ça amène à la production de la monoculture céréalière et la production quasi-industrielle de la viande. Bon, ces deux questions-là, je vais y revenir en plus en détail parce que pour moi, elles sont importantes. À quelle heure j'ai commencé? Moins quart, 25 minutes, ouais, ça marche. Oui, réduction de la biodiversité, oui, c'est ça. Vous n'avez pas le détail. Parce que si je mets le détail à l'écran, vous allez essayer de m'écouter et de lire en même temps, puis ça ne marche pas. Vous savez bien, hein? Ceux qui font de l'enseignement. Là, puis je m'excuse, je parle comme un prof, mais j'en suis. Hein? Bon. Au cours de l'histoire, il y a eu 7000 espèces de plantes qui ont été cultivées aux fins de l'alimentation. 7000 espèces de plantes. Au 20e siècle, c'est là que ça a commencé, l'éradication, littéralement, de la diversité des plantes. Puis surtout la deuxième moitié du 20e, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu à moins de 1400 plantes comestibles cultivées. Okay? Dont 10, je dis bien 10, sont responsables à elles seules de 75% de la production alimentaire. Vous voyez? Concentration. Quelles sont-elles? Le maïs, le blé, le riz et le soja, qui sont les quatre principales. Les trois premières sont des céréales, maïs, blé, riz, et celles-ci contribuent à 50% de toutes les cultures et 85% de toutes les céréales. Okay? Qui contrôle le maïs, le blé et le riz contrôle l'alimentation de la planète. Non, on ne peut pas se dire que de cela, mais vous savez à quoi ça sert d'abord et avant tout cela? Surtout le maïs et le soja, la quatrième culture qui n'est pas une céréale, l'alimentation animale. La proportion de la culture, de la récolte annuelle de maïs mondiale et celle de la récolte annuelle mondiale de soja qui va à l'alimentation animale ne cesse de croître. Parce qu'on mange de plus en plus de viande. Les autres, là, juste pour mémoire, sorgho, mil, patates douces, canne à sucre, betterave et bananes. C'est les 10 aliments contrôlés. Bon, j'ai entendu parler du contrôle du commerce de la banane par Chiquita et deux, trois autres. Hein. Dole et puis... Et ça, c'est le soja et le maïs pour l'alimentation animale, c'est très important aussi parce que ça va très loin. Vous savez que, je l'ai mentionné, je crois, l'élevage, l'aquaculture, je n'ai peut-être pas mentionné le saumon, qui est une des formes d'aquaculture les plus répandues, surtout dans les pays industriels. Le saumon, vous savez, est carnivore, mais plus maintenant. Le saumon d'élevage, on en a fait un végétarien. Il mange du maïs. On engraisse le saumon au maïs. Alors, pourquoi tout cela? Parce que ça permet, encore une fois, la concentration du contrôle de l'agriculture. Et bien sûr, ça permet l'expansion de la production de viande sans package. Hein? Si vous êtes des voyageurs, vous êtes déjà peut-être allé au Texas. Moi, je ne vais pas souvent aux États-Unis. Hein? Mais la dernière fois que je suis allé au Texas, ça fait déjà 4 ans, j'ai traversé le Texas en bagnole pour aller voir un de mes frères qui vit là-bas. Puis je me dis, hey, je vais voir des ranchs, je vais voir du bétail. Je n'ai pas vu une tête de bétail. J'ai vu en passant beaucoup d'éoliennes. Hein? Vous savez, ça fait une des contradictions du Texas. C'est un gros premier producteur pétrolier, mais premier producteur d'énergie éolienne aussi. Pourquoi? Parce que le bétail, on l'élève sur pied, hein? À l'intérieur. On le laisse aller dehors un peu pour les flatulences de temps en temps, quand ça ne tient plus. Mais parce que vous savez que c'est une des principales sources d'émissions de méthane. Mais en gros, je n'entrerai pas dans les détails, les descriptions abominables, vous savez, d'élevage porcin, les poulets sont entassés les uns sur les autres. On casse les pattes des élevages de poulets aux États-Unis, on casse les pattes des poulets pour en mettre plus, les nourrir plus vite, etc. Bon, mais de toute façon, pourquoi? Parce que ça permet de les gaver de maïs, ça ne prend pas beaucoup d'espace, et puis ça se contrôle, ça prend beaucoup d'antibiotiques parce que les épizooties ou les maladies plutôt, peuvent se répandre rapidement, mais ça se contrôle, là aussi, par l'industrie agrochimique. Puis pourquoi est-ce que la viande se consomme de plus en plus dans le monde, alors qu'on sait tous que ce n'est pas une chose dont il faut abuser, puis d'une chose dont on peut très bien se passer, il y a quand même des populations entières qui s'en sont passées depuis des millénaires puis qui s'en tirent bien, parce qu'il y a un modèle culturel, puis le modèle culturel, bien, c'est le modèle occidental et en particulier américain, et que ça permet là aussi des profits plus faciles. La meilleure façon de rentabiliser une récolte de maïs, c'est de la faire digérer par un saumon ou une grosse bestiole. À l'intérieur. Les profits plus faciles et plus élevés, plus faciles à contrôler, à concentrer, à monopoliser. C'est le mot que je vais employer depuis tout à l'heure. Il n'y en avait pas. L'expansion de l'élevage. Ben oui, on va l'illustrer ici, là. Je vais revenir sur les questions. Bon, juste un petit. Mes graphiques sont très simples. Je ne sais pas de vous compliquer la vie, là, mais c'est, vous voyez bien, hein, 1961-2011. Écoutez, de 1950 à 1990, la population mondiale a doublé. La production céréalière a triplé et la production de viande a quintuplé. Ça suffit, ça. OK? Photo suivante, s'il vous plaît. Ouais. Bon, vous voyez, la consommation de la viande, tout type confondu, mais vous avez le détail, là. Je vous signale qu'à l'heure actuelle, ce qui est en croissance plus rapide que la consommation de bœuf, parce que les Américains en ont tellement bouffé de bœuf qu'ils commencent à en avoir assez. Et là, c'est le poulet qui est en croissance. Bon, c'est une relativement bonne nouvelle. C'est une viande moins nocive au plan de la santé. Aujourd'hui, 70 % des surfaces cultivées dans le monde, je dis bien toutes cultures confondues, hein, érable à sucre compris, 70 % est destiné à l'alimentation animale. Hein? C'est ça, moi, à chaque fois que je le dis, j'ai de la misère à le croire, mais bon, je vais le vérifier à chaque fois, puis ça va être bientôt 75. Bon, c'est contre toute logique agricole, alimentaire, bien sûr. Un hectare de riz produit 10 fois plus de calories qu'un hectare de riz dont la production est consacrée à l'alimentation animale. Vous voyez ce que je veux dire? Plus un aliment est consacré à l'alimentation animale, plus il perd sa valeur calorique. Ça prend 10 fois plus de céréales pour produire une calorie animale que pour la consommation directe. D'où le fait que les civilisations asiatiques ont été largement végétariennes. La culture chinoise, je n'ai pas beaucoup de temps de l'expliquer, puis je ne vais pas trop dire, je vais quand même essayer de respecter mon temps, intégrait merveilleusement l'élevage de basse cour. Il n'y a jamais eu de pâturage en Chine, je parle à l'échelle historique, disons, avant les années 30 et 40, avant en gros la révolution maoïste, qui a complètement, je ne vais pas employer le gros mot là, qui a complètement transformé l'agriculture chinoise, qui rejoint de plus en plus le modèle occidental, c'est-à-dire où tout est orienté vers l'alimentation animale, alors que l'alimentation animale se faisait essentiellement avec des détritus de la culture céréalière, l'élevage, pisciculture, tout le bazar, tout ça, ça marche ensemble. Je pourrais vous faire un croquis, monter une colline sur laquelle on fait pousser le thé et on élève le ver à soie. Dans le bassin, on a des étangs de pisciculture et des sous à cochons. À côté des étangs de pisciculture, et ce que les cochons produisent, excusez-moi, ça nourrit les étangs de pisciculture, ça fait pousser les algues, puis les algues, les carpes les mangent. Puis les carpes, elles servent à nourrir les gens. Puis quand on draine l'étang à chaque année, ou deux fois par année pour attraper des carpes, bien, toutes les vases qui sont sorties de là sont mises sur les cultures. Puis ça permet de faire 10 à 12 récoltes de légumes par année, en particulier de choux. Okay? C'est vraiment la création perpétuelle. Bon, ce modèle-là n'existe pratiquement plus, mais enfin, je l'ai vu en opération, moi, il y a déjà 40 ans à peu près. Là. J'ai fait mes études de doctorat à Singapour, moi, à la fin des années 70, puis la banlieue maraîchère de Singapour fonctionnait largement comme ça. J'ai fait ma thèse là-dessus. Là. Bon, OK, alors, transformer un surplus agricole pour la production de viande, c'est correct, s'il y a assez à manger, mais c'est un non-sens si on prétend qu'il n'y a pas assez de culture dans le monde, qu'il n'y a pas assez d'aliments, que d'engouffrer dans la filière animale qui, comme on le sait, crée énormément de problèmes dès qu'elle devient abusive, dès qu'elle devient excessive. Si on passe à la suivante. Oui, c'est ça. Vous voyez la consommation annuelle de viande par personne, à peu près en 2012. Ben, je vous ai une petite idée, là, 137 kilos, ça c'est l'Australie, puis les États-Unis, hein, puis l'Espagne. Là, 137 kilos per capita. Hein? Les enfants ne mangent quand même pas leur steak à tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des gens qui mangent une livre de bœuf par jour aux États-Unis et en Australie. Bon, je ne sais pas comment ils font, mais bon. Il y en a au Canada aussi qui le font. Et puis, bien sûr, la principale source de pollution agricole, c'est l'élevage. C'est l'élevage des bovins, l'élevage des porcs, etc. Puis, bien sûr, l'élevage de crevettes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte écologique très spécifique, les mangroves. Et tout ça, encore une fois, pour produire un aliment qui, en réalité, bon, en passant, moi, je suis omnivore, mais je mange peut-être 100 grammes de viande par semaine, dans le contexte normal. Puis, c'est bien assez, parce qu'un bol de lentilles, ça vaut un steak. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait s'envoyer un steak à tous les jours? Et c'est ce modèle-là qui se répand, le modèle culturel de consommation de viande contre toute logique historique, contre toute logique culturelle se répand dans le monde, y compris en Chine. Bon, là, j'ai pas eu le temps de documenter ça, là, mais vous savez sans doute. Peut-être que la photo suivante, la carte suivante. Oui, voilà, en Chine, c'est ça, il me semblait que je l'avais. Alors, vous voyez, avec la croissance des revenus en Chine, la croissance de la viande, le graphique est très simple, la ligne rouge, c'est la consommation de viande. Bon, ça, ici, là, vous voyez, c'est phénoménal, là aussi. Hein, entre 1991 et en 20 ans, la consommation de viande en Chine a presque doublé dans son per capita. Bon, c'est encore loin de la consommation nord-américaine ou même européenne en général, mais c'est, vous voyez le contingent, là. 1,3 milliard de Chinois qui mangent leur steak, un steak par semaine, disons, dans 5 ans, il n'y a plus de planète. On ne peut pas produire, et puis rien, on va étouffer. Quoi. C'est, ne serait-ce qu'à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure. Et puis, bien sûr, cette agriculture est une source majeure de GES. Et bien sûr, je le répète, 70 % de l'eau, vous me direz que ce n'est pas tellement un problème dans des pays comme le Canada et les États-Unis, mais il y a bien des régions du monde où l'eau devient un problème majeur. Vous imaginez si l'élevage devient au cœur des agricultures chinoises et indiennes ou africaines, là aussi, ce n'est pas possible. Il va se passer quelque chose. Quoi. Et puis, je n'insiste pas, la carnivorisation, je n'aime pas le mot, mais il n'y a pas d'autre chose, de nos sociétés a des effets tout à fait néfastes sur la santé. C'est presque aussi fou que le tabac. Hein? Et puis, moi, quand on me dit, ben oui, mais ce n'est pas possible, le modèle, oui, mais le tabac, ce n'est pas la panacée encore, mais on a cassé la consommation de tabac par l'éducation. Puis par les taxes, bien sûr, les deux marchent ensemble. Pour que les gens soient prêts à payer, je ne sais plus, moi, 10 $ par paquet de cigarettes de taxes dans certains pays, donc ils payent 15 $, dont 10 en taxes, c'est parce qu'ils assument. Puis que la société a compris qu'on pouvait taxer à ce niveau-là. Alors, si on disait le steak coûte 300 $ le kilo, il faudrait expliquer pourquoi. Si vous voulez vous empoisonner, si vous voulez vous étouffer avec la cigarette, payez. Ça a quand même réduit le tabagisme de façon considérable dans nos pays. Alors, si vous voulez faire dépenser des milliards pour votre santé, vos problèmes cardiovasculaires, en bouffant votre kilo de bœuf par semaine, bien, payez. Il n'y a que les riches qui vont s'étouffer. Vous savez, je fais ça parce que c'est tellement triste qu'il faut en rire aussi, sinon on ne peut pas en parler. Mais concrètement, c'est ça. Les riches pourraient manger du caviar, des crevettes puis du steak. Puis ils seraient beaucoup moins nombreux parce qu'à ce moment-là, ils creveraient de ça. Puis c'est un fait. C'est un fait. J'ai oublié, parce que là je ne fais pas de l'ironie. Là. Aux États-Unis, c'est le seul pays industriel où l'espérance de vie est en régression. Hein, partout, l'espérance de vie augmente partout, au Canada, en France, en Suède, etc. À Singapour, enfin les pays qui sont prospères aujourd'hui. Il y a les États-Unis où, depuis une dizaine d'années, l'espérance de vie redescend à cause de mauvaise alimentation. Et puis aussi, j'ai parlé de ça tout à l'heure avec M. Delisle, en fait, il y a le cas de la Russie et de l'Ukraine, qui sont les deux autres pays où c'est la même chose se passe, mais là, c'est à cause d'un vodka. Bon, et ça s'est fait. On peut passer au point suivant. Bon, ça, c'est des choses qui illustrent rapidement. Vous voyez, c'est les États-Unis, le Brésil et l'Argentine qui sont parmi les trois premiers agro-exportateurs du monde, c'est les États-Unis. Le Brésil est rendu numéro 2 ou 3, l'Argentine 6 ou 7. Puis, ce qu'ils exportent essentiellement, c'est des céréales, bien sûr. C'est du blé, c'est du maïs, c'est du soja pour l'alimentation animale. Ils ne sont pas dans... Ben non, en Europe, les OGM, il n'y en a pas. Heureusement, et l'Europe, sur bien des choses, c'est pas mal plus avancé. Hein. Ils ont leurs problèmes à eux. Ils produisent des drôles de politiciens des fois. Mais en France, là, si vous suivez ce qui se passe, c'est quand même... Enfin, bon, peu importe, soyons sérieux. Les législations, les réglementations, en particulier dans les pays scandinaves, sont acceptées par les populations parce qu'elles ont été expliquées. C'est une question d'éducation. J'arrive dans ma conclusion. Bon, réduction de la... Et aussi... Pour que ce modèle-là se répande, il faut s'assurer de créer des dépendances. Alors, ça veut dire réduction de la souveraineté alimentaire dans les pays pauvres. Bon, là aussi, c'est une longue histoire que je vais résumer très vite. On a, je l'ai mentionné, puis je pourrais m'étendre là-dessus, beaucoup subventionné nos agricultures et on continue à le faire. On les subventionne directement ou indirectement en ne faisant pas payer tous les coûts. On laisse les multinationales externaliser leurs coûts environnementaux, socialiser leurs coûts, comme dans le secteur minier. Une multinationale peut détruire tout l'espace dans lequel elle extrait son pétrole ou son gaz bitumineux ou son fer, par exemple, le fer au Québec. Puis une fois qu'ils ont dévasté le territoire, puis ça prend 1 ou 2 milliards pour le rétablir, pour qu'il soit vivable, ce milieu-là, que les eaux soient plus polluées, que la forêt repousse, bien, ils ne payent pas. C'est l'État qui paye, c'est-à-dire la société. Ça aussi, il y a des exemples multiples de ça. Puis, vous savez... Ça s'applique à tous les secteurs. Pour que les entreprises puissent casser des prix, il faut qu'elles cassent leurs coûts. Pour casser leurs coûts, il faut qu'elles cassent l'emploi, puis il faut aussi qu'elles socialisent une bonne partie de leurs coûts. C'est-à-dire qu'elles ne payent pas les véritables coûts. Parce que, ben, l'exemple, je fais de tout bois. Le meilleur exemple, la bagnole. Les bagnoles individuelles, vous savez que c'est devenu un produit individuel. Aux États-Unis, il y a plus de 300 motor vehicles. 9,4 bagnoles pour 10 personnes. Presque une voiture par personne. Autant que je sache, on n'a pas le droit de conduire aux États-Unis avant l'âge de 16 ans. Ça veut dire plus d'une voiture par adulte aux États-Unis. Au Canada, on s'en approche. Au Québec, on est rendu à 6 millions de véhicules motorisés pour 8 millions de personnes. On n'est pas très loin là, du modèle. Et pourquoi? Parce que les voitures sont données. Un pays au monde qui fait payer le vrai prix des voitures, c'est un pays riche, un pays prospère, et je trouve que c'est mon deuxième pays, c'est Singapour. Une voiture du genre Honda Civic, ça coûte 125 à 130 000 $. That's it. Une petite Mercedes, 200. Une grosse Mercedes, 500. Il y en a, mais il y a juste 30 % de la population qui peut se payer. C'est à peu près le pays le plus riche du monde. Hein, per capita, il y a 17 % de millionnaires à Singapour. Hein? Mais les voitures sont chères. Même si des secrétaires gagnent 40 000, 50 000 $ par année, un peu plus que les secrétaires de l'Université de Montréal, elles ne peuvent pas se payer de voiture. Bon, il y a quand même que 30 % des gens qui ont des voitures. Ici, c'est 75 % dans notre société. Parce qu'ils font payer. L'État singapourien a calculé que le véritable coût de tout ce qu'il devait fournir aux voitures, parce que les voitures, vous savez, sont des citoyennes dans nos pays. Bien, on va bien sûr bientôt émettre des passeports aux voitures. Les voitures vont être le droit de voter. Si vous regardez là, le droit de cité, là, je joue sur les mots, mais les voitures ont le droit de cité. Dans nos villes, l'espace automobile est plus important que l'espace piéton par 10. À Montréal, je vis à Montréal, moi. Je suis piéton. Il n'y a pas d'espace pour les piétons. Les cyclistes vont prendre des trottoirs. On les comprend, bon sang, les bagnoles prennent toute la place. Les voitures ont des parkings. Les voitures ont des parkings à étage. Les voitures ont des parkings dans les banlieues. Les voitures bouffent les trottoirs dans les banlieues. Les banlieues résidentielles, il n'y a pas de trottoirs dans les banlieues résidentielles. Vous en connaissez, vous, des banlieues résidentielles à Montréal ou à Québec, il y a des trottoirs? Il n'y en a pas. Bon, pourquoi? excusez-moi, là, c'est une petite envolée, mais c'est pour ça que je vous dis que les voitures sont en train d'accaparer la citoyenneté. Puis bientôt, elles vont se conduire toutes seules. Elles vont être citoyennes. Hein? J'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps. Là. Mais réfléchissez, puis pensez à ça. Là. Je pourrais vous donner toutes sortes d'exemples qui me viennent à l'esprit. Là. Extraterrestre qui débarque sur voir Maisonneuve, puis il s'arrête devant un gros 4x4, là, le char, les corbillards privés. Là. Puis il s'arrête, il se met à genoux, puis il frappe dans le grillage, puis il dit « Conduisez-moi à votre chef. » Parce que pour lui, le citoyen de Montréal, c'est le 4x4. Il n'a pas vu qu'il y avait un pauvre cave à l'intérieur qui était en train de le conduire. Quoi. Non, mais imagine, c'est pas un rêve, là. Ça peut arriver, ça. Que les voitures soient celles qui disent comment fonctionne la ville. Bon, tout ça pour dire que... Oui. Je m'étoile. Je suis un peu éloigné, là. Mais... Deux poids, deux mesures. Forte subvention à l'agriculture dans les pays industriels et interdiction des subventions dans les pays pauvres. Ce qu'on a appelé la période des ajustements structurels. En gros, les années 70-80, en gros en Afrique, mais ça s'appliquait aussi aux pays d'Amérique centrale, certains pays d'Asie, les pays occidentaux ont dit « OK, d'accord, on va vous aider, on va vous prêter de l'argent, on va vous faire des prêts avantageux, mais cet argent-là, vous l'investissez dans les infrastructures, parce qu'il faut améliorer vos routes, il faut construire des barrages, il faut faire ci, il faut faire ça, mais pas de subvention à l'agriculture, pas de subvention à l'agriculture, et surtout pas de subvention à l'éducation. » Ouais, j'invente rien, là. Je pourrais vous donner des sources. Il y a des pays africains qui se sont vus refuser d'utiliser les prêts à ces fins-là. Hein? Parce que l'agriculture, on s'en occupe. Hein? On va vous fournir ce que vous voulez. Vous allez nous produire du thé, du café, des bananes, de l'arachide, vous savez, ces bricoles-là. De toute façon, vos sols sont trop pauvres, vous utilisez des céréales. Ça a été enseigné à l'école d'agriculture de l'Université de Laval, ça, que les sols tropicaux étaient pauvres. C'est pour ça que les pays d'Afrique étaient pauvres. Puis quand j'ai découvert ça, vous imaginez ce que j'ai fait. J'en ai engueulé mes collègues, parce que je ne gêne pas pour engueuler les gens, ça vous surprend peut-être, mais il y a des professeurs dans nos universités qui enseignent encore que les sols tropicaux sont pauvres, et c'est pour ça que les Africains sont pauvres. C'est de la foutaise. Évidemment, les rames à sucre ne poussent pas dans le bassin congolais. Mais le palmier à huile, il coule formidablement bien. Bien, s'il est implanté dans la vallée du Saint-Laurent, le palmier à huile, il ne sortira pas de terre. Bon, il s'agit de choisir les bonnes cultures, d'apporter les amendements nécessaires au sol. C'est prouvé depuis longtemps. On produit de façon phénoménale toutes sortes de cultures dans le monde tropical. Pourquoi dire que les sols sont pauvres? Mais ça a été un argument longtemps privilégié par les pays industriels, puis y compris par des agronomes de nos chères universités, qui sont des vendeurs de rêves, puis des vendeurs de mensonges, pour permettre aux agricultures des pays industriels de domper, excusez l'expression, de déverser des surplus agricoles et donc de permettre à leurs propres agricultures de surproduire sans se casser la gueule. Parce que tout ça, c'est fini par être payé. Ça. L'aide, c'est toujours payé. Ça n'existe pas, l'aide. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, l'aide. Ce sont des prêts avantageux, mais il faut qu'ils soient remboursés. Tout ça, ça a cassé les agricultures. Aujourd'hui, bon, je peux vous donner des exemples concrets. Un pays comme l'Ouganda. Moi, j'enseignais en Ouganda à l'âge de 19 ans. En 1962, pour un an, j'enseignais en Ouganda. Puis c'était formidable comme agriculture. Il y avait des gens qui n'étaient pas riches, mais l'Ouganda était à peu près autosuffisant au plan alimentaire. Aujourd'hui, l'Ouganda produit à peu près 30 à 40 de ce dont il a besoin, puis il est numéro 80 sur l'échelle de la sécurité alimentaire sur les 200 quelques pays sur la liste. Le Singapour en pensait le deuxième pays après les États-Unis. Même, c'est plus d'agriculture à Singapour. Pourquoi? Parce qu'ils ont des moyens. Là, il y a deux indices, la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire. La souveraineté, c'est être capable de produire sa propre nourriture. On appelle ça aussi l'autosuffisance. La sécurité, c'est, bon, un pays comme l'Islande, ils ne peuvent pas avoir de souveraineté alimentaire, mais ils sont assez riches pour pouvoir acheter à peu près tout ce dont ils ont besoin. Vous me suivez? Bon. Alors, la souveraineté alimentaire d'un grand nombre de pays d'Afrique a été réduite, dans certains cas, au profit de la sécurité, parce qu'on leur a fait produire autre chose. Puis dans certains secteurs, ils ont réussi, puis ils sont capables d'acheter. Mais vous imaginez la dépendance que ça crée et le blocage que ça crée. On ne relance pas une agriculture comme ça du jour au lendemain, surtout quand ce sont les grandes entreprises qui contrôlent les leviers. Alors, c'est ce qu'on a appelé les ajustements structurels. On a dit aux Africains, OK, on va vous aider. Le Kenya, un autre bel exemple. Le Kenya, lui, est un fantastique agro-exportateur, tout en étant autosuffisant. Aujourd'hui, le Kenya est à peu près 40 % d'autosuffisance, qui était à 100 % quand ces années-là, enfin, l'année où j'avais beaucoup circulé en Afrique cette année-là. Vous savez, quand on est jeune, on circule. Hein? Enfin, moi, puis j'ai vu des choses. Puis aujourd'hui, ben, la Somalie. La Somalie, ce qu'on appelle un basket case aujourd'hui. La Somalie était autosuffisante, un pays quasi désertique. Bon. le résultat aussi, c'est que la petite agriculture perd du terrain, y compris dans le monde industriel. Bon, ça, vous savez, je n'irai pas plus loin. Puis tout ça, ça repose sur ce que j'appelle la propagande. Vous savez, je n'exagère pas dans les mots. La propagande, c'est la publicité mensongère. Vous savez bien que la publicité, elle est très souvent mensongère. Quand on dit que vous achetez une voiture, que ça vous libère pour sortir de la ville, ça vous aliène. Ça ne vous libère pas. Ça, c'est de la propagande. Bon, puis l'argument qu'on appelle malthusien, c'est que, bon, la croissance de la population est géométrique, alors que la croissance de la population agricole ne peut pas être géométrique. Bien, ça aussi, ça ne tient pas, parce que, comme vous savez, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, on produit de quoi nourrir presque deux fois tout le monde. Et surtout, quand on fait ça, on évacue la question du gaspillage, je l'ai déjà évoqué, je ne reviendrai pas, elle est largement liée à nos modes de consommation qui débordent largement l'agriculture. C'est devenu structurel, systémique, le gaspillage, avec l'obsolescence programmée des produits, tout, les machines à laver, les ordinateurs. Enfin, vous connaissez bien des exemples de choses qui, autrefois, on pouvait s'acheter plus ou moins pour la vie, une fois ou deux. Bien, maintenant, ce n'est plus comme ça. Bien, la nourriture, c'est le même principe. Ça ne fonctionne pas exactement de la même façon, mais c'est le même principe. Là, je n'ai pas le temps. Il y a des techniques de marketing, de lancement de céréales aux États-Unis. On lance des nouvelles sortes de céréales, plus ou moins trafiquées au miel, au sucre, au sel, et puis à la graisse de rôti. Tout ce que vous voulez, on met ça dans les céréales, puis on les teste, puis jusqu'à ce qu'il y en ait une qui se vende plus. Et là, on détruit les stocks de celles qu'on a testées. Mais ça peut être 100 000 tonnes de céréales qu'on va acheter, que Walmart va acheter, parce qu'ils ont découvert la sorte de trucs sucrés, gras, salés, qui va se vendre mieux, on jette le reste. Bon. Gaspillage est devenu structurel. Puis dans cette affaire-là, je dis le rôle ambigu de la FAO, parce que la FAO, tous les chercheurs de la FAO que je connais, je n'en connais pas beaucoup, mais enfin une dizaine, disons, que j'ai connus dans ma vie, ben, ils savent ces choses-là. Mais qu'est-ce que vous faites, chers amis? qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne le dites pas? Ah oui, mais tu sais, c'est compliqué à Rome ou quand c'est les gens de la Banque mondiale. Trois de mes collègues à l'Université Laval, le département de management, qui étaient consultants pour la Banque mondiale, puis un qui était un bon ami, puis on s'engueulait tout le temps. Je disais, mais oui, mais tu le sais comme moi, telle ou telle chose, pourquoi est-ce que tu ne le fais pas valoir? Ah oui, mais tu sais, à la Banque mondiale, ça prend du temps avant d'arriver au niveau décisionnel, puis là, ça devient politique, etc. Puis ça devient bien plus que politique, ça devient corrompu. Moi, je ne me gêne pas. Ben, c'est-à-dire que c'est politique, quoi. Bon, OK. L'agriculture mondiale produit déjà, je vous ai déjà donné le chiffre, les agrocarburants, rapidement, les agrocarburants, vous savez ce que c'est? Comme absurdité, c'est imbattable, cette histoire-là. Un enfant auquel on expliquerait la chose dirait, ouais, mais c'est pas possible, vous voulez faire rouler des voitures en cultivant la terre. Mais cultiver la terre, ça demande de l'énergie, ça demande de la mécanisation en général. La canne à sucre, c'est mécanisé en titi, si vous permettez l'expression, hein? Bien, le bilan énergétique, il est nul. Effectivement, un litre d'éthanol ou un litre de biodiesel pollue moins qu'un litre de diesel ou qu'un litre de pétrole. 30 % de moins, hein, parce que ce n'est pas sans pollution. Mais l'équation totale, la perte en agriculture, fait que c'est zéro. Le calcul est zéro. C'est un mythe. Toutes les formes d'énergie dites renouvelables, bon, je ne suis pas contre la vertu, mais ça ne règle pas le problème. Ça rend l'agriculture redevable à l'industrie de l'automobile. Vous vous rendez compte? Il y a déjà les humains qui dépendent des voitures, qui sont aliénés totalement aux voitures. S'il fallait aliéner l'agriculture pour qu'elle soit orientée de plus en plus. Et c'est ça, le palmier à huile, une des raisons, j'ai oublié de mentionner, pour lesquelles le palmier à huile se répand tant, c'est que c'est un produit extrêmement polyvalent qui va sur à peu près toutes les tablettes des supermarchés, hein, du savon aux soupes, etc., mais aussi... le biocarburant. Quoi. 10 % dans certains pays du biodiesel est produit avec ça. L'agroalimentaire s'inspire de la production industrielle ou la surproduction, le gaspillage et tout le bazar. Je me répète, là, mais enfin, il faut bien se répéter là, pour être sûr que ça soit clair. Puis surtout, rappelez-vous de cette phrase, en réalité, c'est l'offre qui suscite la demande et non l'inverse. Hein? On se fait constamment dire, vous savez, la production, elle répond à la demande. S'il y a de la demande pour un produit, s'il y a de la demande pour de la malbouffe, on va l'offrir, on va la produire. Oui, mais allez, allez. Croyez-vous que les pharmacies, lorsqu'elles vendent des poisons en quantité, on trébuche sur le poison quand on s'achète ses aspirines? Vous savez bien, quand on est dans une pharmacie, il y a des céréales sucrées, il y a des bonbons, il y a du chocolat, il y a toutes sortes de poisons. Hein? Je n'exagère pas, là. À moins que ce ne soit pas comme ça à Elmer, mais les pharmacies vendent de la malbouffe. Puis ensuite, de vendre de quoi se guérir de ça. C'est l'offre. On offre, puis on crée la demande. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de 4 voitures pour 4 personnes? Il y a beaucoup de familles aux États-Unis, puis même au Québec, où il y a 4 voitures pour 4 personnes. Mais pourquoi? Parce qu'on a tellement lavé le cerveau déjà, ça va vous libérer, vous dépasser. De toute façon, les transports en commun, c'est pas confortable, patati patata. Bon, c'est l'offre. Et pourquoi est-ce qu'il faut de l'offre? Il faut de plus en plus d'offres pour qu'il y ait de plus en plus d'accumulation, selon le principe de la baisse tendancielle du taux de profit. Il faut produire plus pour pouvoir accumuler plus. Puis l'accumulation, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler qu'il y a 1 % de la population qui possède 50 % de la richesse mondiale, etc. Bon. C'est cette même logique qui est appliquée à l'agriculture. Et donc, je reviens à la question de la baisse tendancielle du taux de profit. Bon, en gros, combien il me reste de temps? 5 minutes? Ça achève? Bon. Alors, je vais pas récapituler, je vais conclure. OK? Parce que je pense que, en gros, le raisonnement est assez clair. Bon. OK, l'objectif, c'est de concentrer la production géographiquement, financièrement et socialement. C'est assez clair. En incitant à se tourner vers les solutions technologiques, industrielles, mécanisées, énergivores, ce qui accélère la destruction de la nature et de l'emploi et qui facilite la monopolisation de ces solutions. OK? C'est ça que j'ai essayé de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tout ça, ça accroît la dépendance et l'accumulation, bien sûr. Bon, il faut, je pense que... Ah oui, ça, en passant, c'est les pays qui sont carrément en état total d'insécurité alimentaire et dépendent des pays. Aucun de ces pays-là peut vivre une semaine sans importation agricole. Est-ce qu'on peut passer... on va laisser faire la récapitulation. Ça aussi, je viens de le résumer en 2 mots, puis voilà. Conclusion. Déconstruire le discours dominant par l'éducation. Vous allez me dire, c'est bien banal, mais il n'y a pas de solution miracle. On pourrait procéder à l'empoisonnement de tous les cadres des multinationales de la planète, mais ça ne change rien. Hein? Alors, disant de manger leur bœuf, puis il faut que ça soit compris. Hein? Il faut que cela soit compris. Il faut qu'on comprenne les mécanismes. Je vous rappelle, l'acceptabilité sociale du tabagisme a été remise en question par l'éducation. C'est pas parfaitement réussi, mais c'est quand même un moyen succès quand on pense à ce que c'était il y a 50 ans. Déconstruire par l'éducation aux 5 niveaux, je veux dire l'éducation familiale, citoyenne, scolaire, collégiale et universitaire. À tous les niveaux, il y a des intensités de compréhension qui peuvent être améliorées. Bon, je vais vous citer des exemples connus, mais j'y peux rien. Les pays scandinaves, la Finlande, la Suède, le Danemark, la Norvège sont très, très avancés sur ces questions-là. Les enfants savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. La malbouffe aux États-Unis, les enfants, en général, ils n'ont pas encore compris. Ce n'est pas de leur faute, c'est une question d'éducation. Bon, puis c'est des choses dont il faut débattre pour en tirer des conclusions, puis notamment au sujet de la forme du capitalisme boursier. Le capitalisme boursier nous bloque. Les entreprises sont obligées de faire des profits, sinon ils perdent des investissements. Les gens disent, moi, je ne vais pas prêter mon argent à telle ou telle entreprise parce qu'elle ne me donne pas assez. Mon banquier va me dire, je vais placer ton argent chez Couche-Tard parce que Couche-Tard va te donner des meilleurs profits que Couche-Tôt. Peu importe. Hein? Bon. Mais c'est grave, ça. Donc, il faut tranquillement remplacer le capitalisme boursier. Ça ne se fera pas de bon vivant, c'est certain, mais ça peut se comprendre et se faire progressivement par l'entreprise sociale, les réseaux d'entreprises sociales, ce que vous appelez le capitalisme social, dont le seul objectif, c'est de donner des salaires, de faire tourner l'entreprise, d'avoir assez de profits pour réinvestir dans les gens, mais pas verser des dividendes à des actionnaires. Il n'y a pas d'actionnaires. Puis la forme de la ville, encore une fois, la raison pour laquelle nos villes sont absurdes, excusez-moi, peut-être pas encore ici, parce qu'il y a encore du confort, il y a de la place. Mais si jamais vous avez l'occasion d'aller voir Saigon ou Hanoï ou Shanghai ou Kuala Lumpur ou Mexico, you name it, Rio, mais c'est pas possible. Des villes que je connais bien, là, parce que j'ai fréquenté à plusieurs reprises au cours du dernier demi-siècle, comme par exemple Hanoï, c'est un bijou Hanoï. Shanghai, c'était un bijou encore, j'ai enseigné en 83 comme prof invité. J'en parlais aussi. Il y avait 10 millions de vélos pour 20 000 bagnoles. Ben là, il y a l'inverse. Puis, alors, c'est gridlock permanent. Les banlieues sont invivables. Il n'y a plus de trottoirs. Vous savez, on étouffe. Hanoï, encore une fois, je disais, même Saigon, Ho Chi Minh Ville, un bijou très vert, des trottoirs à la parisienne, là, des trottoirs de 8 mètres de large. Ben, il n'y a plus de trottoirs, c'est des parkings maintenant. Puis c'est la moto. Il n'y a plus d'autobus. Les autobus ne peuvent pas circuler parce qu'ils sont bloqués dans les embouteillages. Ils sont pris dans les embouteillages. Rien que les motos qui peuvent circuler. 4 passagers général par moto. Le conducteur a un bébé dans les bras, la mère en arrière avec un bébé. Bon, etc. Exiger l'intervention de tous les coups, ça se fait, ça. Mais comment ça se fait que les crevettes... Évidemment, les gros mangeurs de crevettes n'aiment pas mon exemple, mais il est tellement vrai. Puis on peut s'en passer de crevettes. Puis les crevettes de Matane, les petites crevettes de pêcherie, c'est bon. Je n'ai pas besoin d'être des gros machins élevés à coups d'antibiotiques. Si on comprend ça, si on vous dit que ce que vous mangez, ça empoisonne la planète, puis qu'il y a bien façon de faire autrement, puis ça se comprend. Un enfant, on lui dit que c'est mieux de manger des fruits que de manger des saloperies, qu'il peut manger des choses qui sont tout à fait stimulantes, tout à fait goûteuses, il va l'apprendre. Ou dans quelque culture que ce soit. Il n'est pas obligé de manger de la malbouffe dès son jeune âge. C'est de l'éducation, ça. Puis maintenir l'exception agricole, faire renverser la vapeur, interdire la spéculation sur les produits alimentaires. Pour que ça se fasse, évidemment, il faut que les gens soient convaincus puis disent aux politiciens, si vous ne défendez pas ça, on ne vous élit pas. D'autres mots, il faut qu'il y ait assez de gens qui soient éduqués sur la question, soient capables de développer l'argument. Bon, lutter contre les gaspillages, j'ai pas besoin de... Ben, vous, là, c'est des choses évidentes. Hein? Saine alimentation pour l'éducation, je viens de le dire, éviter les gaspillages. Les systèmes agroalimentaires territorialisés, c'est-à-dire favoriser les circuits courts, ce qui se fait beaucoup, de plus en plus dans certaines régions du Québec, comme dans le Charlevoix, c'est difficile pour les agricultures de ces coins-là de compétitionner les productions de masse qui arrivent avec des camions qui transportent des conteneurs et qui déversent des légumes au quart ou au tiers du prix local. Bien, il faut que des décisions politiques soient prises pour faire valoir auprès des instances supérieures, les MRC, éventuellement le gouvernement provincial, que bon, il y a des manières de faire autrement. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film Demain? Bon, ben, ouais, ceux qui ne l'ont pas vu, je me permets de vous le recommander tout à fait sincère. Écoutez, je me tais, puis vous allez le voir. C'est vraiment bien meilleur que tout ce que je viens de vous raconter parce que ça donne d'excellents exemples de ce qui peut être fait dans 5 domaines, y compris agricole. Bon, je pense que. C'est ça. Tout ce qui est là, vous voyez, ça revient sur ce dont j'ai fait l'analyse critique en disant que ça peut être remis en question étape par étape et que c'est l'éducation. Vous savez, l'éducation, dernier exemple, encore une fois, le pays que j'évoque, là, Singapour, que je fréquente beaucoup, c'est un peu ma base opérationnelle. Là, ça a l'air un peu prétentieux, mais bon, je travaille beaucoup en Asie du Sud-Est. Mais en passant, j'ai pris ma retraite après 46 ans d'enseignement universitaire et de recherche universitaire le 1er juillet dernier. Je suis encore sur ma lancée, là, comme vous voyez. Mais donc, et pendant toutes ces années-là, donc je suis allé à Singapour régulièrement, puis j'ai vu, ce n'est pas un État parfait, hein, Singapour, c'est un régime assez autoritaire, la presse est plus ou moins libre, mais tout ça s'améliore. Mais il y a des disciplines sociales, on a mis le paquet sur l'éducation. Depuis, quand j'étais là, il y a une partie de la ville qui est en bidonville. Maintenant, c'est un des pays les plus éduqués de la planète, une des meilleures universités du monde, et celle où j'ai fait mon doctorat. Ben, à l'époque, ce n'était pas une des meilleures, c'était une bonne, c'est tout. Tout ça parce qu'on a mis le paquet sur l'éducation. Et puis, c'est encore ça. Le plus gros budget de l'État, c'est l'éducation. Puis, plus le budget de l'éducation est élevé, moins le budget de la santé est élevé. C'est une loi de l'histoire, ça. Le plus gros budget du monde en santé, vous savez où c'est? Les États-Unis. Pire santé du monde industriel, les Américains. C'est pas un raisonnement facile, c'est clair. Les gens éduqués ne s'empoisonnent pas, ou moins. Ils ont moins tendance à s'empoisonner. Ou ils font tort quand ils en ont marre. Ils se mettent à exagérer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Puis je suis prêt à répondre à vos questions.